On est de retour avec Hugo Reich pour parler de baseball. Juste avant d'introduire Hugo, vous dire que j'ai vu une statistique passer sur les réseaux sociaux. Le moins de matchs avant d'atteindre les 70 victoires dans l'histoire des Blue Jays de Toronto. En 120 matchs, cette année, c'est le quatrième meilleur résultat des Jays pour atteindre les 70 victoires. La dernière fois qu'ils ont remporté la Série mondiale en 93, ils l'avaient fait en 121 matchs. Vous croyez ce que vous voulez avec cette statistique-là. Je vais juste vous donner la statistique. C'est une meilleure récolte pour 70 victoires que celle en 1993. On parle avec Hugo. Salut Hugo, comment ça va?
Salut Fix, ça va bien? Toi, écoute, je pense que c'est la première fois qu'on fait de la radio ensemble.
C'est la première fois. C'est un plaisir de jaser en ondes. Vraiment content. Je me rappelle à l'époque, on faisait un segment où il fallait trouver l'intrus en ondes.
Ben oui.
Et c'est un segment où j'étais pas très, très doué pour cacher la vérité. Mais là, je suis content de te jaser de balle en ondes aujourd'hui. Écoute, les Blue Jays de Toronto, quel revirement de situation. C'est pas mal une des grosses histoires de l'été, Hugo. Et hier, ils ont été en mesure d'aller chercher une 70e victoire cette année. Ils ont 4 matchs et demi d'avance sur les Red Sox de Boston.
Ouais, mais tu l'as dit, écoute, c'est la quatrième fois de leur histoire qu'ils atteignent le plateau des 70 victoires le plus rapidement. En ce moment, c'est simple et fixe. Il y a tout qui marche pour les Blue Jays. C'est fou. Et on est en train de profiter aussi d'un calendrier de fin de saison où on doit continuer à garder cette cadence-là. Parce que, on va en parler un peu plus tard, mais il y a une équipe dans National, les Brewers, qui eux, ils ont juste décidé qu'ils allaient devenir la meilleure équipe du baseball. Donc, on doit être capable de produire à ce rythme-là. Là, c'est sûr, depuis le début du mois d'août, c'est un peu plus difficile. On a quand même une fiche qui tourne autour relativement de 500. On a une dure série pour commencer le mois face aux Royals de Kansas City où on a perdu 2 des 3 matchs. Par la suite, on est allé blanchir les Rockies au Colorado où on a fait 45 points dans la série de 3 matchs. Ça, c'est incroyable. C'est une production vraiment, vraiment exceptionnelle. Et par la suite, on a une série difficile face aux Dodgers où on a perdu 2 des 3. On vient de remporter notre premier match face aux Cubs qui, eux aussi, doivent un peu intensifier leur production s'ils veulent rattraper les Brewers dans la centrale de la Nationale. Mais ce que j'aime le plus présentement, c'est qu'on est capable d'aller chercher une certaine fiabilité par rapport à la rotation des lanceurs des Jays, mais aussi à l'enclos des releveurs qui font de l'excellent travail. Je tiens à te ramener au dernier match de la série face aux Dodgers, le 10 août dernier, où Jeff Hoffman a eu beaucoup de difficultés à terminer la partie. On a amené Mason Fluardi dans une situation où il y avait un retrait et les buts remplis pour les Dodgers, et Fluardi a été capable de sortir de l'embarras. Donc, si ça, c'est pas un exemple de la force de caractère de l'alignement des Blue Jays, je sais pas c'est quoi. Présentement, on est sur une bonne lancée, on doit continuer à être dans le tapis et à donner tout ce qu'on a.
C'est quoi qui fait la différence cette année chez les Blue Jays? Oui, tu parles un peu des lanceurs partants et tout ça, mais en termes de frappage, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gars qui sont en mesure de pouvoir faire la différence dans une rencontre. Hier, c'est Varsho qui a cogné son 12e circuit de la saison. Est-ce que ce serait ça peut-être qui ferait la différence? C'est quoi la grosse donnée chez les Blue Jays cette année?
En fait, je dirais que le plus gros aspect de la saison des Blue Jays présentement, c'est le fait que la profondeur de l'alignement a toujours été au rendez-vous malgré les blessures. T'sais, on le sait, Dalton Varsho a raté une partie de l'année. Ouais. Là, il est revenu tout récemment et il fait bien, avait connu un bon début de saison. Mais il y a la découverte de certains gars comme Addison Barger, comme Ernie Clement, des gars qui sont capables de frapper dans des situations opportunes et qui sont capables de venir capitaliser dans les moments qui comptent. Il y a Alejandro Kirk aussi qui a été un des meilleurs frappeurs du baseball à 2 prises en début d'année. On a Tyler Heineman qui avait connu un bon premier mois de la saison, qui est le deuxième receveur là, chez les Blue Jays. Et ça, ben, ça fait la différence parce que tu mets constamment la défensive en action. Tu rajoutes la pression constamment. Les Blue Jays, c'est l'équipe qui met le plus de balles en jeu dans le baseball majeur. Ça, pour un lanceur, c'est difficile parce que moindrement que tu lances une prise ou tu lances une balle qui est proche de la zone des prises, ben, tu sais qu'il y a une bonne chance que tu sois en jeu. Donc, un plus gros risque d'erreur. Et ça joue dans la pression. Ça joue dans le rythme, la constance. Et après ça, ben, enfin, on est allé chercher un peu plus de profondeur aussi à la date limite des transactions. On est allé chercher Ty France. Ty France qui commence tranquillement à prendre son rythme à Toronto. Mais ça aussi, c'est un bat à ne pas négliger parce que Ty France est capable du meilleur comme du pire. Mais pour l'instant, il est juste en train de s'habituer là, à ses nouvelles conditions de travail. Mais non, écoute, la profondeur dans l'alignement, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire.
Je voyais l'affiche des Jays, Hugo, cette saison. Là. Ils ont porté leur fiche à 23-11 contre les adversaires de la Ligue nationale cette année. Là. Il s'agit du meilleur taux de victoire des majeurs pour les matchs interligues. Alors, même s'ils ont perdu deux matchs contre les Dodgers, ils ont été en mesure de remporter le premier contre les Cubs hier. Et ce soir, ce sera Kevin Gausman qui sera au monticule pour les Blue Jays. Un duel à 19h07. Pour le deuxième match de cette séquence de 3 contre les Cubs. Tu parlais des Brewers, ils sont complètement en feu à l'heure actuelle. Les Cubs doivent continuer à essayer d'aller chercher des résultats, eux autres, de leur côté, parce que les Brewers n'arrêtent pas de gagner.
Ouais, puis écoute, t'avoues que pour un fan des Cubs, c'est un peu difficile de voir les Brewers qui ont juste décidé qu'eux s'emparaient de la centrale de la Nationale, mais aussi de la Ligue. Là, on n'a pas trop compris, ils sont à 11 victoires de suite présentement.
Aïe aïe.
Ouais. Non, écoute, ça va très bien. Les Brewers, présentement, là, je regarde leur fiche tranquillement, ils sont 41-20 à la maison, 34-24 sur la route. Ils ont un différentiel de plus 152 pour les points pour et les points contre. C'est vraiment une formation là, qui joue ensemble. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt là, ce matin, c'est parce qu'on est capable de bien mélanger une rotation de vétérans avec les Freddy Peralta, les Jose Quintana, les Brandon Woodruff qui est revenu, avec des joueurs d'avant-champ qui sont très jeunes, qui veulent apprendre et qui font en sorte que les résultats sont là. Des joueurs comme Bryce Turang, Joey Ortiz, c'est tous des gars qui commencent vraiment là, à se faire un nom cette année. Même Andrew Vaughn, qui est un gars de 27 ans, qui sort des White Sox de Chicago. Personne ne sait vraiment c'est qui. Il y a eu quelques résultats. On sait que c'est un bâton qui a beaucoup de puissance, mais présentement, il joue un premier but exceptionnel. Et il ne faut pas oublier que les Brewers avaient signé Rhys Hoskins au premier but pour justement s'assurer d'un joueur constant au bâton. Finalement, Hoskins, il y a des blessures qui ont pas aidé à sa cause. Donc, Vaughn a vraiment sauté sur l'occasion. Mais pour ce qui est du reste, on est vraiment allé chercher beaucoup de profondeur. Il y a l'ancien aussi des Blue Jays, Danny Jansen, qui est là comme deuxième receveur à William Contreras. Lui, c'est un aspect défensif intéressant. Donc, ouais, tout le monde va de l'avant, un peu comme les Blue Jays. Je dirais juste que on fait face à des équipes qui sont vraiment, vraiment féroces dans la nationale. Et le fait que, justement, là, on décide de pousser de la même vitesse tout le monde ensemble du côté de Milwaukee, ben c'est super important au moment précis de la saison parce que, justement, la course aux séries s'intensifie. Donc, on veut s'assurer d'être parmi les favoris. Là.
Ouais, Milwaukee qui est déjà à 75 victoires depuis le début de l'année. Très impressionnant pour les Brewers. Une histoire concernant Shohei Ohtani maintenant qui est poursuivie en justice, Hugo.
Ouais, exactement. Shohei Ohtani et son agent qui sont poursuivis en justice par un investisseur immobilier puis un courtier et des courtiers hawaïens pour 240 millions de dollars.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, écoute. Là, Shohei Ohtani commence à avoir un peu de controverse là, derrière le nom. Il y avait justement là, la fameuse séquence de gambling avec son interprète. Ouais. Mais là, en ce moment, la plainte serait du côté de l'investissement de Ohtani et son agent par rapport à une compagnie de marketing qui veulent développer des réseaux immobiliers à Hawaï pour accueillir des communautés japonaises. Là, on dirait que à ce niveau-là, la plainte en tant que telle, la poursuite serait que Ohtani et son agent viendraient nuire à certaines négociations dans le processus de construction de ce complexe-là qui amènerait plus de communautés japonaises. Et ça, écoute, FX, ça fait depuis 11 ans qu'on est en train de bâtir ce réseau-là justement pour être capable d'accueillir une communauté japonaise et tout. Et là, en ce moment, le fait que Ohtani et son agent, Nes Balelo, ils sont en train de se mêler de ça, ça fait des pas contents du côté des investisseurs immobiliers. C'est sûr et certain. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. On n'a pas tous les détails, mais pour l'instant, c'est ça qu'on sait. Pour ce qui est de Shohei Ohtani, on n'aimerait pas retourner dans une controverse. Là. On s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui tournent par rapport à lui. Il y avait ça. Lorsqu'il est arrivé avec les Dodgers, il a eu sa grande blessure. Il revient au jeu. Il a une bonne saison. Donc, faut faire attention par rapport à ça. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, mais parfois aussi, ça peut juste être... comment je pourrais dire ça? Ça pourrait juste être du monde qui veut de l'attention. On a déjà vu ça dans le sport, dans les sports majeurs où on veut une somme d'argent pour pouvoir aller de l'avant envers nos projets personnels.
Donc, ouais, puis avec
faut
une...
être capable de...
Ouais, ouais, non, vas-y, j'allais juste dire, avec une vedette comme Ohtani, ça se pourrait qu'on envoie des trucs comme ça aussi, là.
Exact. Donc, mais je pense que ça a l'air sérieux. En tout cas, pour une somme de 240 millions, c'est quand même assez sérieux, mais tout de même. J'ai hâte de voir ce qui va arriver par rapport à ça et comment ça va tout s'éclairer, cette situation-là. Mais si c'est du bruit qui n'est pas nécessaire dans la saison de Shohei Ohtani présentement.
Les Red Sox hier qui ont écrasé les Astros 14-1. Hugo, c'était le deuxième match d'une série de trois entre les deux équipes. On sait qu'il y a un peu d'animosité en l'air entre les Red Sox et les Astros.
Ouais, c'est ça. Ça a été une série quand même relativement assez émotive parce que la date limite des transactions vient de se terminer dans le baseball majeur. Carlos Correa est retourné à Houston et ça, c'était une transaction que personne ne s'attendait vraiment. Correa, qui avait été un joueur d'impact dans les conquêtes des récentes séries mondiales des Astros, mais c'était pas juste ça, c'était le retour aussi d'Alex Bregman à Houston dans l'uniforme des Red Sox de Boston. Encore une fois, ça a été drôle parce que c'était sa première présence au bâton. Standing ovation, tout le monde debout. Re-bienvenue Alex Bregman, c'est cool de te voir, il est à la deuxième. Mais là, c'était des hurées à n'en plus finir. J'ai jamais entendu ça. un joueur se faire hurer de même. Et c'est dommage parce que Bregman a vraiment, vraiment eu un impact sur, encore une fois, dans les mêmes années que Correa, sur les Astros et tout le succès qu'ils ont connu. C'est un des joueurs les plus clutch, là, si tu me permets l'expression, dans le baseball. Donc, ça a été assez émotif, justement, à cause du retour de Correa à Houston, mais aussi de voir Alex Bregman dans un autre uniforme. Et encore une fois, on s'entend que les Red Sox ont eu une superbe victoire 14-1, c'est important pour leur course aux séries, eux autres aussi, donc ça va être à surveiller. Il y a chose eux autres qui sont bien en tête là, de l'ouest de l'Américaine, donc ça a été des belles retrouvailles, des retrouvailles émotives pour les partisans avec deux types d'émotions différentes.
Ouais, t'as Abraham Toro aussi avec les Red Sox qui avait connu un coup de circuit, pas dans le dernier match, mais dans celui d'avant, qui lui aussi affronte son ancienne équipe en tant que tel. Lui qui évolue maintenant pour les Red Sox de Boston. Alors, le troisième match de cette séquence de trois là entre les deux équipes va avoir lieu aussi. Et en terminant, je vais te parler de Justin Verlander. 3500 retraits au bâton. Quelle carrière quand même pour Verlander.
Écoute, ça c'est fou. C'est seulement le dixième lanceur de l'histoire des majeurs à atteindre le plateau des 3500 retraits sur des prises. À 42 ans, je ne sais pas si vous avez vu des sorties de Justin Verlander, les gars, là, mais est capable de lancer encore 94-95 à 42 ans, c'est assez impressionnant. On sait, Verlander n'a pas une saison là, très, 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 très bonne. Malheureusement, sa première année avec les Giants, une fiche perdante. A été malchanceux en début d'année. Il est en train de tranquillement reprendre là où il l'a laissé tout au long de sa carrière. Par contre, voir ce nom-là avec les Nolan Ryan, Randy Johnson, pardon, Roger Clemens, Steve Carlton, etc., Tom Seaver, c'est assez impressionnant. Verlander, qui a fait sa marque dans le baseball majeur depuis tellement longtemps avec son contrôle, sa balle cassante, mais aussi sa bonne vélocité. Il a fait partie de très bonnes équipes, notamment des Tigers, mais aussi des Astros de Houston. Donc, chapeau à M. Verlander, qui va être une légende, qui va être probablement un admis au temps de la renommée assez rapidement là, dans le baseball majeur.
Oui, qui a déjà remporté également la Série mondiale. Un gros merci à toi, Hugo, pour ton temps aujourd'hui. On refait ça éventuellement dans les prochaines semaines. On est à la barre de l'émission Jacob et moi jusqu'à vendredi la semaine prochaine. Alors, on se refait ça sans faute pour parler des Blue Jays et des autres actualités dans le baseball majeur. Merci, Hugo.
Bien, merci à toi, ça me fait plaisir.
Hugo Reich qui est avec nous pour parler des actualités, notamment avec cette victoire des Blue Jays hier contre les Cubs de Chicago. On s'arrête quelques instants. Au retour, on discute avec David Gilbert de Premier Les Buts pour les différentes nouvelles dans la NFL.